France Culture, il est midi et demi. L'heure du journal avec vous, Sophie Delpon, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Cette édition sera très largement consacrée aux conséquences de l'attaque américaine cette nuit en Irak. Les craintes d'un conflit ouvert entre Washington et Téhéran après le bombardement américain ordonné par Donald Trump cette nuit à Bagdad qui a tué un puissant général iranien. Le général Soleimani, l'une des figures des gardiens de la révolution, c'était près de l'aéroport de Bagdad cette nuit. Dans ce journal, nous ferons son portrait avec Claude Guibal.
Nous irons ensuite à Téhéran où le guide suprême promet une vengeance contre les criminels auteurs de l'attaque.
Selon les mots donc du guide suprême, nous dira en Iran notre correspondant Siavosh Ghazi.
L'attaque a été décidée par le président américain Donald Trump sans l'aval du Congrès.
Nous irons rejoindre à Washington notre correspondant Grégory Philippe. C'est pour analyser les conséquences possibles de cette nouvelle escalade. Notre invité sera Frédéric Ancel, directeur en géopolitique à l'université Paris 8. En France, l'actualité toujours marquée par la réforme des retraites. Alors qu'aujourd'hui, les professions libérales sont appelées à la grève. Édouard Philippe a réuni ses ministres pour tenter de mettre en œuvre le compromis rapide demandé par Emmanuel Macron. Et puis, on a appris il y a quelques minutes que le procureur de la République ouvre une enquête pour viol commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, au préjudice notamment de Vanessa Springora. Dans le cadre de l'affaire Matzneff, on entendra le témoignage de la romancière. Et puis, dans la grande table des idées, Raphaël Bourgois, juste après ce journal.
Eh bien, notre invité sera à 12h55, le psychiatre et psychanalyste Gérard Pommier, qui signe Occupons le rond-point Marx et Freud, une interprétation très politique un an après le mouvement des Gilets jaunes.
On ignore à cette heure quelles seront les conséquences de cette attaque cette nuit en Irak, attaque menée par un drone, attaque aérienne ordonnée par Donald Trump et qui a tué un puissant général iranien, le général Qassem Soleimani, une des figures des gardiens de la révolution, émissaire de la République islamique en Irak. Le raid a eu lieu cette nuit près de l'aéroport de Bagdad. L'Iran a immédiatement réagi, appelant à la vengeance en attisant par là les craintes d'un conflit ouvert entre Washington et Téhéran. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Alors le général Soleimani est vénéré dans son pays, il était considéré comme l'architecte de la stratégie de l'Iran à l'étranger.
Oui, Qassem Soleimani, c'est vraiment l'un des hommes les plus puissants, les plus charismatiques du Proche-Orient, militaire, chef de la force Al-Quds, hein, c'est l'unité d'élite des Pasdaran, l'aile armée du régime iranien. C'était vraiment un maître espion, un stratège militaire et politique vraiment hors pair, un homme de terrain depuis toujours, un moine soldat devenu une icône comparé à un Che Guevara oriental. Sur le terrain, les soldats même se presser pour des selfies à ses côtés. Mais la seule interview qu'il n'ait jamais donnée, c'était en octobre dernier. C'était à la télévision iranienne. En costume noir, il racontait la guerre de 2006 au Liban. Qassem Soleimani, vous le disiez, c'était vraiment le grand architecte de l'influence iranienne dans toute la région. Pendant la guerre Iran-Irak, donc dans les années 80, il s'était fait remarquer pour son courage, pour sa capacité à passer derrière les lignes ennemies. Et c'est vraiment sur ce prestige qu'il a noué des réseaux dans chaque pays de l'arc chiite, l'Irak, le Liban, la Syrie, finançant et formant partout des milices locales chiites qui permettent en fait aujourd'hui à l'Iran de bénéficier là de forces par procuration qui sont acquises à ses intérêts. En Syrie, c'est vraiment lui qui, dans l'ombre de Bachar al-Assad, a articulé et construit toute la répression de la révolution. Redoutable tacticien, c'est lui qui a mis en œuvre la montée des djihadistes pour mieux détruire toute la rébellion. Et on comprend ce matin en quoi c'est vraiment une perte irréparable pour le régime iranien.
Merci Claude Guibal, vous restez avec nous pour interroger notre invité et analyser les conséquences géopolitiques de cette attaque. Frédéric Ancel, dans quelques minutes avec nous. En tout, 8 personnes ont été tuées, dont un dirigeant pro-iranien, Abu Mehdi al-Mouhandis. En 10, numéro 2 du Hash al-Shaabi, coalition des paramilitaires majoritairement pro-Iran, désormais intégrée à l'État irakien, également mort donc dans ce bombardement. Le guide suprême iranien a nommé Ismail Kani comme nouveau chef de la force Al-Quds des gardiens de la révolution islamique. On l'a appris il y a quelques minutes dans un communiqué publié sur son site officiel. Et nous partons tout de suite à Téhéran où l'Ayatollah Khomeini s'est exprimé à la télévision publique hier soir. Le guide suprême a annoncé cette nuit une terrible vengeance qui attend les criminels qui ont assassiné le général Soleimani, selon ses mots. Téhéran estime qu'il s'agit d'une escalade extrêmement dangereuse. Sur place, les précisions de Siavosh Ghazi.
le général Rassem Soleimani était très apprécié par de nombreux Iraniens, notamment pour l'action qu'il a menée en Syrie et en Irak pour lutter contre des groupes Al-Qaïda et Daesh. C'était une personnalité très populaire. Son compte Instagram était très suivi et même des Iraniens qui sont considérés comme hostiles au pouvoir ont affiché la couleur noire sur leur compte Instagram en signe de deuil. Le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, a décrété 3 jours de deuil national. Il a affirmé que la vengeance de l'Iran contre les Américains sera terrible. D'autres responsables iraniens, notamment le président Hassan Rouhani, ont également crié à la vengeance en dénonçant ce qu'ils ont qualifié d'actes terroristes et criminels des États-Unis et en affirmant que donc cette action ne restera pas sans réponse. Le ministre de la Défense a affirmé que le sang du général Soleimani versé par les Américains sera vengé. C'est un ton unanime qu'on entend aujourd'hui, puisque même l'ancien président réformateur Mohamed Khatami a présenté ses condoléances et a dénoncé ce qu'il a appelé le crime commis par les Américains.
Siavosh Ghazi à Téhéran pour France Culture. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a décidé ce matin d'écourter un déplacement en Grèce après la mort du général iranien. Israël redoute des représailles de la République islamique ou de ses alliés dans la région comme le Hezbollah libanais ou le Hamas et le djihad islamique à Gaza. Cette attaque intervient dans un contexte de montée des tensions ces dernières semaines entre Washington et Téhéran dans une région, l'Irak, où les différentes milices sont déjà chauffées à blanc. Valérie Crova.
Une attaque perfide, c'est ainsi que l'ayatollah Sistani, lui-même d'origine iranienne, a qualifié le raid américain qui a conduit à la mort du général Soleimani. Depuis Karbala, cette grande figure de l'islam chiite a dénoncé dans un sermon une atteinte à la souveraineté de l'Irak, mais lance un appel à la retenue et à la sagesse. Le ton est nettement plus ferme et combatif du côté du premier ministre irakien Adel Abdul Mahdi. L'opération américaine qui a conduit sur le sol irakien à l'assassinat du chef de la force Al-Quds marque, selon lui, une escalade qui va allumer la mèche d'une guerre destructrice en Irak. Il a demandé au Parlement de se réunir en urgence. Dans la rue, en revanche, des dizaines d'Irakiens qui manifestent depuis plusieurs semaines contre l'influence iranienne dans leur pays ont accueilli sa mort par des cris de joie sur la place Tahrir de Bagdad. Parmi les alliés de l'Iran, Damas a dénoncé une lâche agression américaine et voit dans la mort du général Soleimani une grave escalade. Cela ne fera que renforcer la détermination à suivre le modèle des chefs de la résistance, a fait savoir l'entourage du ministre des Affaires étrangères syrien Walid Mohalem. Au Liban, le chef du Hezbollah chiite pro-iranien Hassan Nasrallah promet le juste châtiment aux assassins criminels responsables de la mort du général Soleimani qu'il connaissait personnellement. « Nous allons œuvrer nuit et jour pour réaliser ces objectifs », poursuit le leader du Parti de Dieu.
Valérie Crova, direction maintenant Washington où Donald Trump a décidé de lancer cette attaque cette nuit pour tuer ce général iranien très haut placé. Une décision sans l'aval du Congrès américain qui n'était pas au courant. Cette frappe était destinée à dissuader l'Iran de tout projet d'attaque, a très vite annoncé le Pentagone dans un communiqué où il confirmait la mort du général Soleimani. Grégory Phillips, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Washington. Alors cette décision unilatérale du président Trump a déclenché de nombreuses réactions, notamment celle du président démocrate de la Chambre des représentants, très inquiet du risque d'une nouvelle escalade et dénonçant une décision sans consultation démocratique.
Oui, car en vérité, le Congrès américain n'a été ni consulté, ni même informé de ce raid aérien. C'est en tout cas ce que regrette la speaker de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi. Donald Trump a pris cette décision alors qu'il se trouve en ce moment dans sa résidence d'hiver de Mar-a-Lago. On sait que son conseiller à la sécurité nationale, Robert O'Brien, qui a été nommé à l'automne, était dans les parages en Floride, et que Mike Pompeo, le patron de la diplomatie américaine, qui normalement aurait dû se trouver en Ukraine ce vendredi, a annulé avant-hier son voyage à cause de la situation à Bagdad. Mais globalement, la Maison-Blanche a décidé seule de cette opération et seule de tuer ce général Soleimani. Alors pourquoi lui? Eh bien, pour comprendre, il faut lire attentivement le communiqué du Pentagone d'une vingtaine de lignes qu'on a reçu hier soir à Washington. Les Américains considèrent que le général qui dirige cette force Al-Quds, cette unité d'élite des gardiens de la Révolution, est responsable de la mort d'un sous-traitant américain le 27 décembre dernier à Kirkouk, dans le nord de l'Irak, et aussi responsable de la tentative de saccage mardi de l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Et puis, plus globalement, Soleimani pilotait toutes les opérations extérieures de cette unité Al-Quds. Les Américains considèrent donc qu'il avait sur les mains le sang de plusieurs centaines de soldats américains tués ces dernières années sur le théâtre irakien.
Et Grégory, cette relation avec Téhéran avait donc connu une escalade ces derniers mois avec Washington.
Oui, souvenez-vous, en juin dernier, par exemple, on était passé tout près d'une guerre. Trump avait expliqué qu'il avait failli, à 10 minutes près, lancer une attaque contre l'Iran avant de se raviser, et ce, après la destruction d'un drone américain. Quelques semaines plus tard, il y avait eu la crise des bateaux attaqués dans le détroit d'Ormuz, et puis en septembre, la destruction d'installations pétrolières en Arabie Saoudite, et là encore, les Américains avaient pointé du doigt la responsabilité de Téhéran, mais sans répliquer. Cette fois, on est donc passé à autre chose, et on ne sait pas, évidemment, vous l'avez précisé avec Siavosh Ghazi à Téhéran, comment la République islamique d'Iran va réagir à la mort de son général.
Merci Grégory Phillips en direct de Washington pour France Culture. Afin d'analyser les conséquences possibles de cette nouvelle escalade, notre invité est Frédéric Ancel, docteur en géopolitique à l'Université Paris 8. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et pour vous interroger à nos côtés, Claude Guibal qui est resté avec nous. Alors pour commencer, première question, la mort du général Soleimani, c'est un tournant, peut-être un point de non-retour dans l'escalade avec Washington?
Alors moi je ne crois pas au point de non-retour. Vous savez, au Moyen-Orient, les langages sont toujours extraordinairement fleuris. Hein. C'est l'apocalypse, c'est le baril de poudre ou d'explosifs, ce sont les portes de l'enfer qui s'ouvrent et qui se ferment. Bon, si vous voulez, le Moyen-Orient en a vu d'autres d'une part. D'autre part, ce général si puissant fut-il, a immédiatement été remplacé, et on le comprend aisément par les autorités supérieures de Téhéran. Troisième point, et là ça a été très bien rappelé il y a quelques instants, c'est pas la première fois, hein, ces dernières années, ces derniers mois, qu'il y a effectivement, alors ce qu'on appelle communément escalade entre Washington et Téhéran. Et en même temps, je ne crois absolument pas à une véritable guerre, en réalité, faute de combattants. C'est-à-dire que l'Iran dispose de missiles tout à fait performants, mais pour frapper quoi? Pour frapper qui? Par ailleurs, leur flotte aérienne ainsi que leur flotte navale est parfaitement désuète face à la surpuissance américaine dans la région. Et j'ajoute que les alliés de l'Iran dans la région sont de plus en plus importants ces dernières années, ça je crois qu'on ne peut pas le contester, mais face à la surpuissance du bloc que j'appellerais de manière un peu hâtive américano-sunnite ou américano-israélo-sunnite, franchement, Téhéran ne fait pas le poids. Et si vous me permettez un dernier point, à la tête du régime islamique d'Iran depuis 79, on a eu très souvent des fanatiques. D'ailleurs, Soleimani était un fanatique, mais on a très rarement des imbéciles. Ce sont des gens qui sont globalement prudents et stratèges.
Frédéric Ancel, là vous parlez d'un cas de guerre conventionnelle où une armée, l'armée iranienne attaquerait. Mais l'Iran et l'influence iranienne telle que exercée par Qassem Soleimani, c'est notamment ses relais locaux. Alors comment justement imaginer ces représailles que, on l'entendait tout à l'heure, l'Iran promet à la mort de celui qu'elle considère désormais comme un martyr?
Alors vous avez raison, ça ne se passera pas de manière conventionnelle. Deux choses me semble-t-il. D'abord, les intérêts américains les plus symboliques, les plus évidents, les ambassades. Bon, bah, c'est quand même pas nouveau, on l'a rappelé suffisamment ces derniers jours, une ambassade américaine a été frappée dans la région. Ça sera pas la première fois, mais là je pense que les ressortissants américains, les commerciaux, les militaires, là où ils peuvent se trouver hors des grandes bases, les ambassades, oui, vont vraisemblablement être touchées, peut-être pas seulement au Moyen-Orient d'ailleurs, hein, peut-être même sur le sol américain. En revanche, il y a un deuxième point qu'on oublie trop souvent depuis ce matin, me semble-t-il, c'est le nucléaire. Et là, c'est une représaille entre guillemets passive. Je veux dire par là que les Iraniens ont été très extraordinairement vexés, vous apprécierez la litote, du retrait américain avec fracas de ce fameux accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire. Et là, les Iraniens qui recommençaient à enrichir de l'uranium au-delà de ce qui leur était permis, arguant et prétextant du retrait américain, vont vraisemblablement aller plus vite et plus fort.
D'autant qu'il y a une échéance prochaine hein, sur l'augmentation promise par eux des taux d'enrichissement de l'uranium.
Absolument, vous avez raison. Et alors justement, le problème là, c'est que la limite pour l'Iran, c'est que il n'y a pas en face seulement les Américains, mais il y a pratiquement le monde entier. Même les partenaires, les alliés, je pense à Moscou, plutôt partenaire qu'allié d'ailleurs. Pékin, mais également Paris, Londres et Berlin, tout le monde est contre le farouchement opposé à la possibilité pour donner à l'Iran un jour de se doter de la bombe. Autrement dit, on a des représailles possibles de la part de l'Iran, c'est vrai, sans doute vis-à-vis donc de personnels américains, notamment diplomatiques, mais plus ça sera très compliqué pour l'Iran.
Et alors finalement, cette décision, on l'a entendu encore tout à l'heure racontée par notre correspondant aux États-Unis, Grégory Philippe, cette décision unilatérale de Donald Trump, est-ce un coup de folie ou un véritable coup de poker et peut-être un coup politique très malin?
Ouais, je pencherais pour la troisième solution. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes au début d'une campagne électorale aux États-Unis et Trump, me semble-t-il, a voulu, c'est pas la première fois d'ailleurs, il avait déjà frappé une base syrienne il y a 2 ans de cela, avant même d'attendre les Français et les Anglais d'ailleurs. Mais là, on a affaire vraisemblablement à quelqu'un qui souhaite se doter des habits, enfin, de l'aura du chef de guerre, sans pour autant risquer le retour de cercueils de soldats américains. Parce que dans le même temps, il ne vous aura toujours pas échappé que Trump tient sa promesse en sortant, ça nous a d'ailleurs tous fait hurler, en sortant les soldats de Syrie, ceux qui avaient pour alliés les Kurdes, en laissant les Kurdes tout seuls. Autrement dit, il se retire au sol, c'est ce que faisait d'ailleurs assez globalement Obama de la région, mais il maintient son niveau de pression en termes de frappes aériennes et de frappes de drones. Quant aux démocrates, regardez à quel point ils ont manifesté leur colère depuis ce matin, sauf que sur le plan institutionnel, Trump n'avait pas, puisque ce n'est pas un acte officiellement de guerre contre un autre État, eh bien Trump n'avait pas à en référer au Congrès. Ça, là-dessus, la Constitution est très claire.
Merci beaucoup pour cette interview, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique à l'Université Paris 8. Merci à Claude Guibal pour cette interview également sur France Culture. Je précise que la France a plaidé aujourd'hui pour une stabilité au Moyen-Orient après la mort de ce général iranien. Les mots de la secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie Montchalin, l'escalade militaire est toujours dangereuse. Dans l'actualité internationale, en bref, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a nommé hier soir, 2 semaines exactement après son entrée en fonction, son premier gouvernement composé de 39 membres. Une annonce faite à la télévision nationale. La semaine dernière, le président algérien avait nommé premier ministre Abdelaziz Djerad, un universitaire de 65 ans, ancien secrétaire général de la présidence. 4 des 5 principaux ministres figurant dans ce nouveau gouvernement appartenaient déjà au gouvernement précédent. Et puis, dans l'affaire Carlos Ghosn, l'ex numéro 1 de Renault-Nissan, qui a fui la justice japonaise en partant au Liban, d'où il ne peut être extradé, donc une fuite depuis Tokyo, la compagnie aérienne privée turque, donc MGN Jet, a annoncé ce matin avoir déposé plainte pour usage illégal de ses services de location de jets lors de cette fuite rocambolesque, alors que Carlos Ghosn aurait fait escale à Istanbul depuis Tokyo avant de rejoindre Beyrouth. Hier, 7 personnes ont été arrêtées en Turquie dans cette affaire. En Australie, les feux gigantesques se poursuivent. La marine australienne a entamé ce matin l'évacuation de centaines de personnes coincées encore dans une ville du sud-est cernée par les flammes. Alors que le pays redoute ce week-end une nouvelle aggravation de la situation des feux de forêt, 1 millier de personnes devraient avoir été évacuées de cette zone cet après-midi, a déclaré le Premier ministre australien. Au moins 20 personnes sont mortes, des dizaines d'autres sont portées disparues et plus de 1300 maisons ont été réduites en cendres depuis le début de la saison des incendies en septembre. En France, réunion à Matignon qui vient de s'achever autour d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a réuni donc ses ministres pour tenter de mettre en œuvre une stratégie et trouver un compromis rapide pour la réforme des retraites, selon la mission rappelée par Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Français. Alors que les négociations doivent reprendre dans 5 jours avec les partenaires sociaux, les professions libérales se mobilisent à partir d'aujourd'hui contre la réforme des retraites. Quand le collectif SOS Retraite, qui réunit des avocats, des médecins, des infirmières, des pilotes de ligne ou encore du personnel navigant appellent à une grève glissante. Pendant ce temps-là, ce matin, à Bercy, Bruno Le Maire a réuni ce matin les organisations de commerçants et de l'hôtellerie-restauration pour faire un point sur l'impact économique des grèves, en arguant un argument de poids aussi dans la bataille de l'opinion qui se joue en ce moment. Alain Jumet, bonjour.
Bonjour.
Des professionnels qui ont enregistré des baisses de fréquentation de leur chiffre d'affaires à Paris et dans les grandes villes, notamment celle desservie par le TGV, et qui demande pour certains de nouvelles mesures d'urgence.
Oui, et ils ont, semble-t-il, été entendus, hein, puisque selon un participant, Bercy accordera des baisses de charges aux commerçants en grave difficulté. Voilà qui s'ajoute aux mesures annoncées le 11 décembre dernier, des reports de charges, des ouvertures supplémentaires le dimanche ou encore du chômage partiel, un dispositif auquel ont déjà eu recours près de 200 entreprises d'Île-de-France. Alors particulièrement impacté le secteur de l'hôtellerie-restauration qui a tenté tant bien que mal de limiter la casse, comme nous l'explique son président Laurent Duc.
Face aux annulations qu'on engrangeait, ou je dirais plutôt l'encéphalogramme plat de réservation qu'on notait les 15 premiers jours de décembre, on a fait des tarifs très attractifs et du coup on a maintenu un taux d'occupation au détriment du chiffre d'affaires. Il va falloir faire quelque chose, sinon on va avoir de vrais dépôts de bilan et c'est très rare dans l'hôtellerie, mais je pense que 2019 pourrait marquer un pas.
Alors du côté du secteur du commerce, on attend maintenant mercredi prochain et le début des soldes d'hiver pour améliorer le chiffre d'affaires. Des professionnels pressés de voir ce conflit se terminer. Gontran Turing, délégué général du Conseil national des centres commerciaux.
La consommation a un côté psychologique qui est très important. Aujourd'hui, c'est vrai que les Français n'ont pas vraiment le moral en fonction de ces mouvements sociaux, de la situation politique. Donc plutôt le conflit entre guillemets sera résolu et plutôt les Français reviendront à une consommation joyeuse entre guillemets. C'est vrai que ce mouvement lié à la réforme des retraites est venu casser un peu un élan qui était un redémarrage par rapport aux années précédentes.
Alors à Paris, les enseignes qui le souhaitent pourront ouvrir tous les dimanches de janvier, mais encore faut-il que les clients puissent accéder aux magasins, s'inquiètent les professionnels. D'autant que le lendemain des soldes est annoncée une nouvelle journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites.
Merci Alain Jemu pour toutes ces précisions. La Fédération CGT de la Chimie appelle à un blocage de toutes les raffineries, installations pétrolières, terminaux pétroliers et dépôts pendant 96 heures de mardi à vendredi la semaine prochaine. Et hier, 200 manifestants environ se sont rassemblés devant la raffinerie Total de Donges en Loire-Atlantique contre la réforme des retraites. On l'a appris il y a quelques minutes, le procureur de la République ouvre une enquête pour viol commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, en préjudice notamment de Vanessa Springora dans l'affaire Matzneff. Après la publication de son livre Le Consentement hier, Vanessa Springora, elle s'est exprimée pour la première fois ce matin. Elle y a fait le récit glaçant dans ce livre de sa relation avec l'écrivain Gabriel Matzneff dans les années 70. Il avait 50 ans à l'époque, elle avait seulement 14 ans. Vanessa Springora Gorey dénonce non seulement l'emprise pédophile exercée, mais aussi la complicité des milieux littéraires et politiques. Aujourd'hui écœurée par cette expérience et par la complaisance dont il a bénéficié, elle s'exprimait donc pour la première fois dans les matins de France Culture.
Il a fallu beaucoup de distance. La véritable raison, je pense que c'est aussi le fait d'être devenue moi-même mère et d'avoir autour de moi des adolescents et de comprendre enfin ce qui avait été très difficile pour moi jusque-là, ce que c'était réellement que cet âge très particulier de grande vulnérabilité, de transition entre l'enfance et l'âge adulte, et qui est un moment où on est une proie évidemment idéale pour ce type de structure psychique auquel on a affaire avec cet homme, mais comme il y en a malheureusement de nombreux. La particularité, chez lui, c'est d'être écrivain et donc de redoubler son entreprise de prédation par une exploitation littéraire de cette séduction et cette dépossession de des jeunes filles et des jeunes garçons d'ailleurs. Pour ce qui est des années 70, puisqu'il a commencé avec plutôt les jeunes garçons. C'est ça, voilà, qu'il caractérise, qui fait sa singularité, on va dire. C'est en plus d'être écrivain et d'utiliser l'alibi de la littérature pour pouvoir continuer à assouvir ses pulsions qui sont malheureusement pathologiques.
Vanessa Springora a été l'invitée de Guillaume Erner dans les matins de France Culture. Une interview à retrouver en intégralité ainsi qu'un dossier complet sur notre site internet franceculture.fr. Un mot de météo, de la pluie sur une très large partie du territoire métropolitain cet après-midi. Pour trouver du soleil, il faut aller sur les côtes de la Normandie et de la Bretagne, en Gironde aussi, les Alpes également. Un peu de soleil aussi à retrouver au bord de la Méditerranée. Les températures sont comprises en moyenne entre 5 et 14 degrés, avec 5 degrés à Clermont-Ferrand, 6 à Strasbourg, 8 à Grenoble, 9 à Lille, 11 à Paris, 12 degrés à Nice et jusqu'à 14 degrés maximum à Ajaccio. C'est la fin de cette édition réalisée avec Nicolas Paumet et avec à la technique Jean-Guilain Meige. Le prochain journal de la rédaction, ce sera à 18h. Il sera présenté par Anne Fauquemberg.